à la fois en Allah ne doit pas réagir comme tout le monde. La personne qui n'a pas iman en Allah,
lorsqu'elle entend parler de ce terme effrayant qui est la récession, la crise financière, ben qu'est-ce qui se passe au constat d'aller médias, même si ça n'est pas propagé officiellement, les gens commencent à retirer leur argent de la banque. Certaines personnes commencent à acheter des coffres pour mettre chez eux, pour garder leurs biens. D'autres personnes préfèrent convertir leur dollar, leur euro ou leur n'importe quel rumla, n'importe quelle devise qu'ils ont. Ils préfèrent acheter des lingots d'or. Et d'autres personnes, et ça vous allez voir d'ici quelques temps, ils n'hésiteront pas à commencer à faire des stocks de nourriture, acheter du riz en quantité, des graines, alors des conserves, de crainte qu'il y ait une telle situation économique critique qu'il n'y ait plus rien à manger, que les prix augmentent. Cette crainte habite le cœur de la personne qui n'a pas la foi en Allah. Mais malheureusement, même chez les musulmans, nous constatons une présence similaire, une angoisse similaire. Alors qu'est-ce qui fait qu'un musulman qui a la foi en Allah ne se suffit pas d'avoir confiance en son Rabb et qui se retrouve à avoir les mêmes craintes que celui qui ne croit ni au paradis, ni en enfer, ni au destin, ni au rosier, à la distribution de la nourriture. La première raison, c'est que malheureusement, au rythme où nous vivons, nous nous projetons trop dans l'avenir. Nous faisons des projets à long terme. Nous réfléchissons dans une marge de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Comment sera ma vie si j'ai 40 ans à ma retraite? Comment sera la vie de mes enfants, de mes petits-enfants? Où est-ce qu'ils vont habiter? C'est-à-dire qu'on se projette trop loin dans l'avenir, ce qu'on appelle en arabe « tawlul amal ». Également, nous sommes persuadés que c'est nous qui faisons la richesse. Nous sommes persuadés que c'est par mon travail, par mes efforts, par ma situation, que j'aurai de meilleurs rangs, j'aurai des revenus supérieurs, et cela me permettra d'avoir un confort de vie qui n'est pas celui de mon voisin ou celui qui a une situation moins bonne que la mienne. La confiance sur soi, c'est moi qui fais. Également la confiance sur l'homme. Nous croyons en l'homme, que c'est de l'homme dont vient les décisions, et de cette manière, il est tout à fait normal de craindre cette crise. La peur que les erreurs humaines dans la bourse ou dans les investissements engendrent une situation catastrophique qui va provoquer un état de pauvreté dans tous les pays en Dieu médit développé. Si le musulman, lui aussi, se projette dans l'avenir, si le musulman a beaucoup d'attentes dans ce dunya, si le musulman est persuadé que c'est par ses efforts qu'il obtient son rosi et que les richesses viennent de l'homme, alors certainement, il aura ce qu'on appelle « tawlul amal », beaucoup d'espoir dans la vie de ce monde. Et lorsqu'une personne a de l'espoir, a ses défauts en elle, ces quatre défauts qu'on vient de citer, Imam al-Samarqandi al-Hanafi rahimahullah explique que cette personne verra trois points noirs dans son cœur. Premièrement, l'accomplissement des bonnes actions deviendra lourd et difficile. Quand cette personne ne voit d'intérêt que dans ce qui lui sera profitable financièrement. Tout ce qui concerne les ibadats, c'est bien, mais ça ne lui rapporte pas. Donc, il ne sera pas attaché aux bonnes actions et peu à peu, son cœur se détachera des a'mal as-salihah. Également, la personne qui agit de la sorte, elle aura beaucoup d'angoisse, beaucoup de crainte dans tous les événements de la vie. Car lorsqu'on s'investit à fond dans le dunya, ben, soit on gagne, soit on perd. Lorsqu'on gagne, les pourtant, mais parfois même quand on gagne, on a un peu de remords. J'aurais dû investir plus. J'aurais dû plus approfondir dans un investissement. Et lorsqu'on perd, ben, on est assisté. Également, cette personne qui a de telles ambitions, elle deviendra cupide. Elle aura un attachement particulier à sa fortune. Elle voudra tout pour augmenter sa fortune. Et ça, c'est un cercle vicieux. C'est une spirale dont on n'en sort jamais. Comme le professeur Hassan dit hadith que l'être humain, même s'il a une vallée d'or, il voudra une seconde, puis une troisième. Voilà, yamna ujawku bni adam illa turab. La seule chose qui remplit le ventre de l'être humain, c'est la terre. Et lorsqu'on est mort, là, on n'a plus envie de gagner. Également, maintenant, la personne qui, contrairement à le cas qu'on vient de citer, le musulman qui a iman dans son cœur, il est modéré dans ses attentes, dans ses projets. Il garde à l'esprit le caractère éphémère de cette vie, de ce dunya. Cette personne pense de manière permanente à la mort. Je travaille pour mon dunya, tout en sachant qu'un jour je reviens auprès d'Allah. Cette personne, elle, aura quatre qualités qu'une personne qui n'a pas iman ne peut imaginer. Elle trouvera facile l'accomplissement des bonnes actions. Et comme elle a conscience qu'un jour je meurs, je reçois auprès d'Allah, ben, son intérêt ne sera pas concentré que sur cette dunya, mais elle aura comme souci principal comment préparer ma rencontre avec Allah. Ça, c'est celui qui a le véritable iman de son cœur. Cela n'empêche pas pour autant la personne d'être aisée. Mais avec l'iman, sa vision de la richesse, de la fortune sera différente. Cette personne ne sera pas affectée par les aléas de la vie quotidienne, par les montées et les baissées, et le fait que la bourse monte et diminue du matin jusqu'au soir. Cela ne l'affectera pas. Car sachant que son objectif est de préparer sa rencontre avec Allah, cette personne ne donne pas autant d'importance au dunya que l'autre catégorie de personnes. Elle sait que ce dunya est éphémère. Et cette personne se contentera du peu, ce qu'on appelle al-qana'a. Et le terme qana'a est incompréhensible pour un businessman. Le terme qana'a, se contenter de ce que Allah nous a donné, cela n'est pas plausible pour ce qu'on appelle un golden boy, quelqu'un qui investit dans la bourse. Il ne sait pas c'est quoi se contenter de ce qu'on a. Plus on a, plus on va investir pour gagner plus, même si on ne va pas tout dépenser, mais l'objectif c'est d'augmenter les biens. Et le cœur de la personne qui a l'iman, comme on vient de le citer, sera ouvert et illuminé, et son cœur acceptera les paroles de Ta'a, les paroles qui invitent vers Allah Ta'ala. On résumera ça par le hadith dans lequel le prophète dit en ce sens, Ar-raghbatu fi dunya tukthiru al-hamma wal-huzn. Quand on aime le dunya, alors on aura beaucoup d'angoisse et de tristesse. Wal-zuhdu fi dunya yurihu al-qalba wal-badan. Tandis que si on se détache de ce bas monde, alors le cœur sera apaisé et on aura la tranquillité. Donc la première raison qui fait que certains musulmans, eux aussi, craignent un crash financier, ils craignent ce terme de récession, c'est que notre attachement avec les biens de ce monde est excessif. Deuxième raison, c'est que le musulman ne croit pas ou ne croit plus réellement sur le taqdir. On ne croit plus réellement sur le destin. Notre confiance en Allah est minime, voire inexistante. Notre confiance sur la clémence d'Allah n'existe plus. Et Abu Darda, radiallahu ta'ala, il a bien dit que, on va dire en français, que jamais un homme, un musulman n'aura atteint la réalité de la foi tant qu'il n'aura pas conscience que ma lam yakun anna ma asabahu lam yakun yukhti'a, que ce qu'Allah n'avait pas écrit pour lui, jamais il ne pourra l'avoir. Et ce que Allah a écrit pour lui, jamais cela ne l'échappera pas. Celui qui a iman sur ce point-là, il ne sera pas angoissé par les aléas de la bourse. Également, le musulman se doit d'avoir le yaqeen, la confiance totale, que avant même que nous soyons venus au monde, Allah Ta'ala a déjà décrété qui gagnera telle fortune, qui mangera telle quantité de nourriture. Dans la hadith, il est dit qu'alors que nous étions dans le ventre de notre mère à l'âge de 40 jours, Allah écrit la vie, Allah est destiné à destiner la mort et Allah a destiné la subsistance, ce qu'on appelle le rosi. Si on a le yakin dessus, assurément, on aura la tranquillité du cœur. Le musulman se doit également d'avoir la certitude que ce que Allah a écrit pour lui en termes d'argent, de revenus, de subsistance, il l'aura assurément et il ne quittera pas ce dunya sans l'avoir. Personne ne mourra sans qu'il n'aura totalement eu sa subsistance au rosi. Et Imam al-Qurtubi cite que Malik al-Maut, il dit فَإِذَا وَجَدَ الْإِنسَانَ لَقَدْ نَفَدَ أَكْلَهُ. Là, c'est le hadith. Lorsque Malik al-Maut, il voit que l'être humain a complété sa nourriture, son rosi dans ce dunya, là, Malik al-Maut vient dans la maison et là, il reprend l'âme de ce musulman ou de ce kafir, mais jamais avant. Alors maintenant, si on a la réelle confiance en Allah Ta'ala, on ne doit pas craindre cette situation financière et économique qui est très préoccupante. Car le travail, la bourse, tout ça, ce sont là des asbab, des intermédiaires. Avec ces intermédiaires, nous pouvons gagner beaucoup d'argent, mais même avec ces intermédiaires, Allah peut ne pas donner, car le rosi est dans les mains d'Allah avec ou sans asbab. Et celui qui a la véritable taqwa, la véritable crainte d'Allah, sachez qu'une telle personne qui croit en Allah comme il le faut, jamais, de jamais, Allah Ta'ala ne nous abandonnera, car Allah dit dans le Coran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Celui qui croit en Allah, Allah lui donnera une issue favorable. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah Ta'ala lui donnera sa subsistance par un intermédiaire qu'il n'imaginait même pas. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ يُفَنْ وَحَسْبُهُ. Celui qui a la confiance en Allah, ben Allah Ta'ala lui suffira. Ce n'est pas l'inflation, ce n'est pas la récession qui augmente, ni diminue mes revenus, ni mon rosy, tout est dans les mains d'Allah. Et comme ça me dit que si vous aviez vraiment la confiance en Allah, alors vous serez comme cet oiseau qui part le matin le ventre vide et qui revient le ventre plein. Il n'y a pas d'oiseau comptable, il n'y a pas d'oiseau médecin ou avocat. Son rosy est écrit à un endroit particulier de la forêt ou de la ville ou n'importe où, et il a ce qu'Allah a été pour lui. Si, les ulama disent que si nous avons la véritable confiance, nous saurons au conditionnel qu'Allah Ta'ala crée les asbab. Allah Ta'ala arrange les situations pour qu'on obtienne notre rosy. Et donc, autre point qui différencie le musulman du nom de la personne qui n'a pas d'iman dans sa crise financière, c'est la notion de baraka. Le golden boy, comme le businessman, ça se voit l'expression, ne connaît pas la notion de baraka. Pour lui, 10 euros, c'est 10 euros. 100 dollars, c'est 100 dollars. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend un bol de lait dans lequel des dizaines de sahaba vont boire, ou d'une petite quantité de nourriture, des centaines de sahaba vont manger. Pour quelqu'un qui n'a pas de mal, c'est quelque chose d'impossible, d'irréalisable. Et il faut que nous soyons conscients que le baraka, la bénédiction, n'a aucun rapport avec la quantité. C'est pas parce que j'ai 10 000 euros dans mon compte que je vais vivre mieux que celui qui reçoit le SMIC mensuellement ou que celui qui est abonné au RMI. On doit être conscient que beaucoup d'argent n'est pas synonyme de profusion. Beaucoup d'argent ne veut pas dire qu'on va jouir de ses biens. Combien de personnes, ils ont des rentes extraordinaires, mais ils ne voient pas la couleur de leurs biens. Beaucoup d'argent ne veut pas dire, et là vous serez tous d'accord avec moi, n'est pas synonyme d'une vie heureuse. La baraka, c'est quoi? C'est le bien qu'Allah vous a donné, même si c'est peu, cet argent reste. Vous pouvez joindre les deux bouts. À la fin du mois, vous avez payé vos factures, votre loyer, votre frigidaire est plein, vous avez tout, alhamdulillah, il reste encore un peu. Ça, c'est la baraka. La baraka, c'est quoi? C'est que vous jouissiez de vos biens. La baraka, c'est quoi? C'est que cet argent vous permet d'accomplir des bonnes actions. Si on avait le temps de réexpliquer que veut dire alhamdulillah, il a dit at'amana, wa saqana, wa ja'alna muslimin. Non, pardon, le contraire. Que veut dire bismillah, je n'ai pas encore mangé. Que veut dire bismillah, wa ala barakatillah. Qu'est-ce qu'on invoque de ce doigt? Quel genre de barakat? On expliquerait ça en trois points. Donc, comprendre la notion de baraka, ce qui est impossible à accepter pour quelqu'un qui n'a pas iman. Également, comment, il y a six points, mais on ne le citera pas, six points pour attirer la baraka de nos biens. Premièrement, travailler toujours avec le halal. Que nos revenus soient toujours halal, sachant que le paradis est interdit pour quelqu'un qui a des revenus non autorisés. Et maintenant, la charia, comment elle est complète dans le système économique. Ce qui distingue, je n'ai pas de cours d'économie, je n'ai pas les compétences, ce qui distingue le système financier européen du système financier d'autres pays, d'autres Atlantiques, c'est que nous en Europe, ben, alhamdulillah, sans qu'on le sache, on respecte un principe, on ne vend pas ce qu'on ne possède pas. Tandis qu'outre-Atlantique, un conteneur de tomates est vendu avant que la graine n'ait été germée même. On vend ce qu'on ne possède pas, tout est basé sur les spéculations, et il y a un super article qui est sur internet, je vous donnerai l'adresse. On aurait lu un économiste qui dit que c'est le Coran qui a amené les meilleures solutions pour qu'il n'y ait jamais de crash dans la vie économique. Et puis, comment obtenir la baraka? S'éloigner des péchés. On ne citera pas les points importants. Également, dépenser ses biens dans le sens d'Allah. Et la baraka vient quand il y a la justice dans le dunya. C'est pour ça qu'à l'époque de Omar ibn Abdelaziz, et à l'époque de Isa alayhi salam à son retour, il y aura une bénédiction que jamais l'humanité n'aura connue. Et le meilleur argent, c'est celui qu'on obtient, comme on le dit en français, à la sueur de son front. Quand on obtient l'argent par nos efforts, il y a une baraka spéciale. Ce sont là les conditions pour attirer la baraka de nos biens et que nos cœurs ne soient pas habités par ce stress lié à la conjoncture économique. Maintenant, au-delà de ça, il y a deux choses qui ne sont pas de nos mains et on va conclure là-dessus. Un, la sunna d'Allah, وتلك الأيام نداولها بين الناس. Allah a décrété que le succès économique, la puissance varie de pays en pays. Il se fut un temps où c'était l'Éthiopie, ensuite les Grecs, les Romains, les Perses. De nos jours, c'est des pays qu'on connaît. Si certains pays connaissent des faiblesses, c'est qu'il y a une sunnah d'Allah que d'autres pays prennent le relais de génération en génération. Et puis parmi les signes de Qiyama, hein, une diminution d'aller bien, et avant la venue de Dajjal, il y aura une famine comme jamais l'humanité n'aura connu. Ce sont là deux choses qui ne sont pas de nos mains, mais à part ça, comment attirer la baraka? On a compris. Comment faire en sorte que nos cœurs ne soient pas habités par le stress dû à cette récession imminente? On l'a vu, la confiance en Allah, comprendre le destin et demander à Allah baraka wa ma tawfiq illa billah. On demande à Allah sincèrement de mettre la bénédiction de nos revenus, qu'on soit commerçant, qu'on soit fonctionnaire, quelle que soit notre fonction, qu'Allah met la baraka de nos biens et nous protège des mafsadat ad-dunya. Wa ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.